Les frères Karamazov, livre 12, chapitre 8, dissertation sur Smerdiakov. D'abord, d'où vient la possibilité d'un pareil soupçon? Le premier qui a dénoncé Smerdiakov est l'accusé lui-même lors de son arrestation. Pourtant, jusqu'à ce jour, il n'a pas présenté le moindre fait à l'appui de cette inculpation, ni même une allusion tant soit peu vraisemblable à un fait quelconque. Ensuite, trois personnes seulement confirment ces dires, ses deux frères et Madame Svietlov. Mais l'aîné a formulé ce soupçon seulement aujourd'hui, au cours d'un accès de démence et de fièvre chaude. Auparavant, durant ces 2 mois, il était persuadé de la culpabilité de son frère et n'a même pas cherché à combattre cette idée. D'ailleurs, nous y reviendrons. Le cadet déclare n'avoir aucune preuve confirmant son idée de la culpabilité de Smerdiakov, et s'appuie uniquement sur les paroles de l'accusé et l'expression de son visage. Il a proféré 2 fois tout à l'heure cet argument extraordinaire. Madame Svietlov s'est exprimée d'une façon peut-être encore plus étrange. « Vous pouvez croire l'accusé, il n'est pas homme à mentir. » Voilà toutes les charges alléguées contre Smerdiakov par ces 3 personnes qui ne sont que trop intéressées au sort du prévenu. Et pourtant, l'accusation contre Smerdiakov a circulé et persiste. Peut-on vraiment y ajouter foi? Ici, Hippolyte Kirillovitch jugea nécessaire d'esquisser le caractère de Smerdiakov, qui a mis fin à ses jours dans une crise de folie. Il le représenta comme un être faible, à l'instruction rudimentaire, dérouté par des idées philosophiques au-dessus de sa portée, effrayé de certaines doctrines modernes sur le devoir et l'obligation morale que lui inculquait, en pratique, par sa vie insouciante, son maître Fiodor Pavlovitch, peut-être son père, et, en théorie, par des entretiens philosophiques bizarres. Le fils aîné du défunt, Ivan Fiodorovitch, qui goûtait ce divertissement, sans aucun doute par ennui ou par besoin de raillerie. Il m'a décrit lui-même son état d'esprit les derniers jours qu'il passa dans la maison de son maître, expliqua Hippolyte Kirillovitch. Mais d'autres personnes attestent la chose. L'accusé, son frère et même le domestique Grigori, c'est-à-dire tous ceux qui devaient le connaître de près. En outre, atteint d'épilepsie, Smerdiakov était peureux comme une poule. Il tombait à mes pieds et les baisait, nous a déclaré l'accusé, alors qu'il ne comprenait pas encore le préjudice que pouvait lui causer cette déclaration. « C'est une poule épileptique !» disait-il de lui dans sa langue pittoresque. Et voilà que l'accusé, lui-même l'atteste, en fait son homme de confiance et l'intimide au point qu'il consent enfin à lui servir d'espion et de rapporteur. Dans ce rôle de mouchard, il trahit son maître, révèle à l'accusé l'existence de l'enveloppe aux billets et les signaux grâce auxquels on peut arriver jusqu'à lui. D'ailleurs, pouvait-il faire autrement? « Il me tuera, je m'en rendais bien compte », disait-il en tremblant pendant l'instruction, bien que son bourreau fût déjà arrêté et hors d'état de le molester. « Il me soupçonnait à chaque instant ». Et moi, glacé de terreur, je m'empressais, pour apaiser sa colère, de lui communiquer tous les secrets, afin de prouver ma bonne foi et d'avoir la vie sauve. Telles sont ses paroles, je les ai notées. Quand il criait après moi, il m'arrivait de me jeter à ses pieds. Très honnête de nature, jouissant de la confiance de son maître, qui avait constaté cette honnêteté lorsque son domestique lui rendit l'argent qu'il avait perdu. Le malheureux Smerdiakov a dû éprouver un profond repentir de sa trahison envers celui qu'il aimait comme son bienfaiteur. Suivant les observations de psychiatres éminents, les épileptiques gravement atteints ont la manie de s'accuser eux-mêmes. La conscience de leur culpabilité les tourmente. Ils éprouvent des remords, souvent sans motif, exagèrent leurs fautes, se forgent même des crimes imaginaires. Il leur arrive parfois de devenir criminels sous l'influence de la peur, de l'intimidation. En outre, vu les circonstances, Smerdiakov pressentait un malheur. Lorsque le fils aîné de Fiodor Pavlovitch, Ivan Fiodorovitch, partit pour Moscou, le jour même du drame, il le supplia de rester. Mais sans oser, avec sa lâcheté habituelle, lui faire part de ses craintes d'une façon catégorique. Il se borna à des allusions qui ne furent pas comprises. Il faut noter que pour Smerdiakov, Ivan Fiodorovitch représentait comme une défense, une garantie que rien de fâcheux n'arriverait tant qu'il serait là. Rappelez-vous l'expression de Dmitri Karamazov dans sa lettre d'ivrogne « Je tuerai le vieux pourvu qu'Ivan parte ». Par conséquent, la présence d'Ivan Fiodorovitch paraissait à tous garantir l'ordre et le calme dans la maison. Il part, et Smerdiakov, une heure après environ, a une crise, d'ailleurs fort compréhensible. Il faut mentionner ici que, en proie à la peur et à une sorte de désespoir, Smerdiakov, les derniers jours, sentait particulièrement la possibilité d'une crise prochaine, qui se produisait toujours aux heures d'anxiété et de vive émotion. On ne peut pas évidemment deviner le jour et l'heure de ces attaques, mais tout épileptique peut en ressentir les symptômes. Ainsi parle la médecine. Un peu après le départ d'Ivan Fiodorovitch, Smerdiakov, qui se sent abandonné et sans défense, va à la cave pour les besoins du ménage et songe, en descendant l'escalier, « Aurais-je ou non une attaque, si elle allait me prendre maintenant ?» Précisément, cet état d'esprit, cette appréhension, ces questions provoquent le spasme à la gorge, précurseur de la crise. Il dégringole sans connaissance au fond de la cave. On s'ingénie à suspecter cet accident tout naturel, à y voir une indication, une allusion révélant la simulation volontaire de la maladie. Mais dans ce cas, on se demande aussitôt « Pourquoi ? Dans quel dessein ?» Je laisse de côté la médecine. « La science ment, dit-on. La science se trompe. Les médecins n'ont pas su distinguer la vérité de la simulation. Soit, admettons. Mais répondez à cette question. Quelle raison avait-il de simuler ? Était-ce pour se faire remarquer à l'avance dans la maison où il préméditait un assassinat ? Voyez-vous, messieurs les jurés, il y avait 5 personnes chez Fiodor Pavlovitch la nuit du crime. D'abord, le maître de la maison, mais il ne s'est pas tué lui-même, c'est clair. Deuxièmement, son domestique Grigori, mais il a failli être tué. Troisièmement, la femme de Grigori, Marthe Ignatievna, mais ce serait une honte de la soupçonner. Il reste par conséquent 2 personnes en cause, l'accusé et Smerdiakov. Mais comme l'accusé affirme que ce n'est pas lui l'assassin, ce doit être Smerdiakov. Il n'y a pas d'autre alternative, car on ne peut soupçonner personne d'autre. Voilà l'explication de cette accusation subtile et extraordinaire contre le malheureux idiot qui s'est suicidé hier. C'est qu'on n'avait personne sous la main. S'il avait existé le moindre soupçon contre quelqu'un d'autre, un 6e personnage, je suis sûr que l'accusé lui-même aurait eu honte de charger alors Smerdiakov, et eût chargé ce dernier, car il est parfaitement absurde d'accuser Smerdiakov de cet assassinat. Messieurs, laissons la psychologie, laissons la médecine, laissons même la logique. Consultons les faits, rien que les faits, et voyons ce qu'ils nous disent. Smerdiakov a tué. Mais comment ? Seul ou de complicité avec l'accusé ? Examinons d'abord le premier cas, c'est-à-dire l'assassinat commis seul. Évidemment, si Smerdiakov a tué, c'est pour quelque chose, dans un intérêt quelconque. Mais n'ayant aucun des motifs qui poussaient l'accusé, c'est-à-dire la haine, la jalousie, etc., Smerdiakov n'a tué que pour voler, pour s'approprier ses 3 000 roubles que son maître avait serrés devant lui dans une enveloppe. Et voilà que, résolu au meurtre, il communique au préalable à une autre personne, qui se trouve être la plus intéressée, précisément l'accusé, tout ce qui concerne l'argent et les signaux, la place où se trouve l'enveloppe, sa suscription, avec quoi elle est ficelée, et surtout, il lui communique ses signaux au moyen desquels on peut entrer chez son maître. Eh bien, c'est pour se trahir qu'il agit ainsi ? Ou afin de se donner un rival qui a peut-être envie, lui aussi, de venir s'emparer de l'enveloppe ? Oui, dira-t-on, mais il a parlé sous l'empire de la peur. Comment cela ? L'homme qui n'a pas hésité à concevoir un acte aussi hardi, aussi féroce, et à l'exécuter ensuite, communique de pareils renseignements, qu'il est seul à connaître au monde et que personne n'aurait jamais deviné s'il avait gardé le silence. Non, Si peureux qu'il fût, après avoir conçu un tel acte, cet homme n'aurait parlé à personne de l'enveloppe et des signaux, car c'eût été se trahir d'avance. Il aurait inventé quelque chose à dessein et menti, si l'on avait absolument exigé de lui des renseignements. Mais gardez le silence là-dessus. Au contraire, je le répète, s'il n'avait dit mot au sujet de l'argent et qu'il se le fût approprié après le crime, personne au monde n'aurait jamais pu l'accuser d'assassinat avec le vol pour mobile, car personne, excepté lui, n'avait vu cet argent. Personne n'en connaissait l'existence dans la maison. Si même on l'avait accusé, on aurait attribué un autre motif au crime. Mais comme tout le monde l'avait vu aimé de son maître, honoré de sa confiance, les soupçons ne seraient point tombés sur lui, mais bien au contraire sur un homme qui, lui, aurait eu des motifs de se venger, qui, loin de les dissimuler, s'en serait vanté publiquement. Bref, on aurait soupçonné le fils de la victime, Dmitri Fiodorovitch. Il eût été avantageux pour Smerdiakov, assassin et voleur, qu'on accusât ce fils, n'est-ce pas? Eh bien, c'est à lui, c'est à Dmitri Fiodorovitch que Smerdiakov, ayant prémédité son crime, parle à l'avance de l'argent, de l'enveloppe, des signaux. Quelle logique! Quelle clarté! Arrive le jour du crime prémédité par Smerdiakov, et il dégringole dans la cave après avoir simulé une attaque d'épilepsie. Pourquoi? Sans doute pour que le domestique Grigori, qui avait l'intention de se soigner, y renonce peut-être en voyant la maison sans surveillance et monte la garde. Probablement aussi afin que le maître lui-même, se voyant abandonné et redoutant la venue de son fils, ce qu'il ne cachait pas, redouble de méfiance et de précaution. Surtout enfin pour qu'on le transporte immédiatement, lui, Smerdiakov, épuisé par sa crise, de la cuisine où il couchait seul et avait son entrée particulière, à l'autre bout du pavillon, dans la chambre de Grigori et de sa femme, derrière une séparation, comme on faisait toujours quand il avait une attaque, selon les instructions du maître et de la compatissante Martignatievna. Là, caché derrière la cloison et pour mieux paraître malade, il commence sans doute à geindre, c'est-à-dire à les réveiller toute la nuit. Leur déposition en fait foi. Et tout cela afin de se lever plus aisément et de tuer ensuite son maître. Mais, dira-t-on, peut-être a-t-il simulé une crise précisément pour détourner les soupçons et parler à l'accusé de l'argent et des signaux pour le tenter et le pousser au crime. Et lorsque l'accusé, après avoir tué, s'est retiré en emportant l'argent et a peut-être fait du bruit et réveillé des témoins, alors, voyez-vous, Smerdiakov se lève et va aussi. Eh bien, que va-t-il faire? Il va assassiner une seconde fois son maître et voler l'argent déjà dérobé. Messieurs, vous voulez rire? J'ai honte de faire de pareilles suppositions. Pourtant, figurez-vous que c'est précisément ce qu'affirme l'accusé. « Lorsque j'étais déjà parti, dit-il, après avoir abattu Grigori et jeté l'alarme, Smerdiakov s'est levé pour assassiner et voler. » Je laisse de côté l'impossibilité pour Smerdiakov de calculer et de prévoir les événements. La venue du fils exaspéré qui se contente de regarder respectueusement par la fenêtre et, connaissant les signaux, se retire et lui abandonne sa proie. Messieurs, je pose la question sérieusement. À quel moment Smerdiakov a-t-il commis son crime? Indiquez ce moment, sinon l'accusation tombe. Mais peut-être la crise était-elle réelle? Le malade, ayant recouvré ses sens, a entendu un cri, est sorti, et alors? Il a regardé et s'est dit « Si j'allais tuer le maître ?» Mais comment a-t-il appris ce qui s'était passé, gisant jusqu'alors sans connaissance? D'ailleurs, messieurs, la fantaisie même a des limites. Soit, diront les gens subtils, mais si les deux étaient de connivence, s'ils avaient assassiné ensemble et s'étaient partagé l'argent. Oui, il y a en effet un soupçon grave, et tout d'abord de fortes présomptions à l'appui. L'un d'eux assassine et se charge de tout, tandis que l'autre complice reste couché en simulant une crise, précisément pour réveiller au préalable le soupçon chez tous, pour alarmer le maître et Grigori. On se demande pour quel motif les deux complices auraient pu imaginer un plan aussi absurde. Mais peut-être n'y avait-il qu'une complicité passive de la part de Smerdiakov. Peut-être qu'épouvanté, il a consenti seulement à ne pas s'opposer au meurtre, et pressentant qu'on l'accuserait d'avoir laissé tuer son maître sans le défendre, il aura obtenu de Dmitri Karamazov la permission de rester couché durant ce temps comme s'il avait une crise. Libre à toi d'assassiner, ça ne me regarde pas. Dans ce cas, comme cette crise aurait mis la maison en émoi, Dmitri Karamazov ne pouvait consentir à une telle convention. Mais j'admets qu'il y ait consenti. Il n'en résulterait pas moins que Dmitri Karamazov est l'assassin direct, l'instigateur, et Smerdiakov à peine un complice passif. Il a seulement laissé faire, par crainte et contre sa volonté. Cette distinction n'aurait pas échappé à la justice. Or, que voyons-nous ? Lors de son arrestation, l'inculpé rejette tous les torts sur Smerdiakov et l'accuse seul. Il ne l'accuse pas de complicité. Lui seul a assassiné et volé. C'est l'œuvre de ses mains. A-t-on jamais vu des complices se charger dès le premier moment ? Et remarquez le risque que court Karamazov. Il est le principal assassin. L'autre s'est borné à laisser faire, couché derrière la cloison. Et il s'en prend à lui. Mais ce comparse pouvait se fâcher, et par instinct de conservation, s'empresser de dire toute la vérité. Nous avons tous deux participé au crime. Pourtant, je n'ai pas tué, j'ai seulement laissé faire, par crainte. Car Smerdiakov pouvait comprendre que la justice discernerait aussitôt son degré de culpabilité, et compter sur un châtiment bien moins rigoureux que le principal assassin qui voulait tout rejeter sur lui. Mais alors, il aurait forcément avoué. Pourtant, il n'en est rien. Smerdiakov n'a pas soufflé mot de sa complicité, bien que l'assassin l'ait accusé formellement et désigné tout le temps comme l'unique auteur du crime. Ce n'est pas tout. Smerdiakov a révélé à l'instruction qu'il avait lui-même parlé à l'accusé de l'enveloppe avec l'argent et des signaux, et que sans lui, celui-ci n'aurait rien su. S'il avait été vraiment complice et coupable, aurait-il si volontiers communiqué la chose? Au contraire, il se serait dédit, il aurait certainement dénaturé et atténué les faits. Mais il n'a pas agi ainsi. Seul un innocent, qui ne craint pas d'être accusé de complicité, peut se conduire de la sorte. Eh bien, dans un accès de mélancolie morbide, consécutive à l'épilepsie et à tout ce drame, il s'est pendu hier, après avoir écrit ce billet. Je mets volontairement fin à mes jours, qu'on n'accuse personne de ma mort. Que lui coûtait-il d'ajouter? C'est moi l'assassin et non Karamazov. Mais il n'en a rien fait. Sa conscience n'est pas allée jusque-là. Tout à l'heure, on a apporté de l'argent au tribunal. 3 000 roubles. Les billets qui se trouvaient dans l'enveloppe figurant parmi les pièces à conviction. Je les ai reçus hier de Smerdiakov. Mais vous n'avez pas oublié, messieurs les jurés, cette triste scène. Je n'en retracerai pas les détails. Pourtant, je me permettrai 2 ou 3 remarques choisies à dessein parmi les plus insignifiantes, parce qu'elles ne viendront pas à l'esprit de chacun et qu'on les oubliera. D'abord, c'est par remords qu'hier Smerdiakov a restitué l'argent et s'est pendu. Autrement, il ne l'aurait pas rendu. Et ce n'est qu'hier soir, évidemment, qu'il a avoué pour la première fois son crime à Ivan Karamazov, comme ce dernier l'a déclaré. Sinon, pourquoi aurait-il gardé le silence jusqu'à présent? Ainsi, il a avoué. Pourquoi, je le répète, n'a-t-il pas dit toute la vérité dans son billet funèbre, sachant que le lendemain on allait juger un innocent? L'argent seul ne constitue pas une preuve. J'ai appris tout à fait par hasard, il y a 8 jours, ainsi que 2 personnes ici présentes, qu'Ivan Fiodorovitch Karamazov avait fait changer en chef-lieu 2 obligations à 5% de 5 000 roubles chacune, soit 10 000 au total. Ceci pour montrer qu'on peut toujours se procurer de l'argent pour une date fixe et que les 3 000 roubles présentés ne sont pas nécessairement les mêmes qui se trouvaient dans le tiroir ou l'enveloppe. Enfin, Ivan Karamazov, ayant recueilli hier les aveux du véritable assassin, est resté chez lui. Pourquoi n'a-t-il pas fait aussitôt sa déclaration? Pourquoi avoir attendu jusqu'au lendemain? J'estime qu'on peut en deviner la raison. malade depuis une semaine, ayant avoué au médecin et à ses proches qu'il avait des hallucinations et rencontrait des gens décédés, menacé par la fièvre chaude qui s'est déclarée aujourd'hui, en apprenant soudain le décès de Smerdiakov, il s'est tenu ce raisonnement. « Cet homme est mort, on peut l'accuser, je sauverai mon frère. J'ai de l'argent, je présenterai une liasse de billets en disant que Smerdiakov me les a remis avant de mourir. » « C'est malhonnête, direz-vous, de mentir, même pour sauver son frère, même en ne chargeant qu'un mort. Soit. Mais s'il a menti inconsciemment, s'il s'est imaginé que c'était arrivé, l'esprit définitivement dérangé par la nouvelle de la mort subite du valet. Vous avez assisté à cette scène tout à l'heure. Vous avez vu dans quel état se trouvait cet homme. Il se tenait debout et parlait. Mais où était sa raison ? La déposition du malade a été suivie d'un document, une lettre de l'accusé à Mademoiselle Verkhovtsev, écrite 2 jours avant le crime, dont elle contient le programme détaillé. À quoi bon chercher ce programme et ses auteurs ? Tout s'est passé exactement d'après lui, et personne n'a aidé l'auteur. Oui, messieurs les jurés, tout s'est passé comme il l'avait écrit. Et nous ne nous sommes pas enfuis avec une crainte respectueuse de la fenêtre paternelle, surtout en étant persuadés que notre bien-aimé se trouvait chez lui. Non, c'est absurde et invraisemblable. Il est entré et il est allé jusqu'au bout. Il a dû tuer dans un accès de fureur, en voyant son rival détesté, peut-être d'un seul coup de pilon, mais ensuite, après s'être convaincu par un examen détaillé qu'elle n'était pas là, il n'a pas oublié de mettre la main sous l'oreiller et de s'emparer de l'enveloppe avec l'argent, qui figure maintenant, déchirée, parmi les pièces à conviction. J'en parle pour vous signaler une circonstance caractéristique. Un assassin expérimenté, venu exclusivement pour voler, aurait-il laissé l'enveloppe sur le plancher, telle qu'on l'a trouvée auprès du cadavre ? Smerdiakov, par exemple, eût emporté le tout, sans se donner la peine de la décacheter près de sa victime, sachant bien qu'elle contenait de l'argent, puisqu'il l'avait vue mettre et cacheter. Or, l'enveloppe disparut. On ne pouvait savoir s'il y avait eu vol. Je vous le demande, messieurs les jurés. Smerdiakov aurait-il agi ainsi et laissé l'enveloppe à terre ? Non. C'est ainsi que devait procéder un assassin furieux, incapable de réfléchir, n'ayant jamais rien dérobé, et qui même maintenant s'approprie l'argent, non comme un vulgaire malfaiteur, mais comme quelqu'un qui reprend son bien à celui qui l'a volé, car telles étaient précisément, à propos de ces 3 000 roubles, les idées de Dmitri Karamazov, idées qui tournaient chez lui à la manie. En possession de l'enveloppe, qu'il n'avait jamais vue auparavant, il la déchire pour s'assurer qu'elle contient de l'argent, puis il la jette et se sauve avec les billets dans sa poche, sans se douter qu'il laisse ainsi derrière lui sur le plancher une preuve accablante. Car c'est Karamazov et non Smerdiakov. Il n'a pas réfléchi. D'ailleurs, il n'avait pas le temps. Il s'enfuit, il entend le cri du domestique qui le rejoint, celui-ci le saisit, l'arrête et tombe assommé d'un coup de pilon. L'accusé saute à bas de la palissade, par pitié, affirme-t-il, par compassion, pour voir s'il ne pourrait pas lui venir en aide. Mais était-ce le moment de s'attendrir ? Non. Il est redescendu précisément pour s'assurer si l'unique témoin de son crime vivait encore. Tout autre sentiment, tout autre motif, eussent été insolites. Remarquez qu'il s'empresse autour de Grigori, lui essuie la tête avec son mouchoir, puis, le croyant mort, comme égaré, couvert de sang, il court de nouveau à la maison de sa bien-aimée. Comment n'a-t-il pas songé que dans cet état, on l'accuserait aussitôt ? Mais l'accusé lui-même nous assure qu'il n'y a pas pris garde. On peut l'admettre, c'est très possible. Cela arrive toujours aux criminels dans de pareils moments. D'un côté, calcul infernal, absence de raisonnement de l'autre. Mais à cette minute, il se demandait seulement où elle était. Dans sa hâte de le savoir, il court chez elle et apprend une nouvelle imprévue, accablante pour lui. Elle est partie pour Mokroyer, rejoindre son ancien amant, l'incontesté. Chapitre 9. Psychologie à la vapeur, la troïka emportée, Perrault raison. Hippolyte Kirillovitch avait évidemment choisi la méthode d'exposition rigoureusement historique, affectionnée par tous les orateurs nerveux qui cherchent à dessein des cadres strictement délimités, afin de modérer leur fougue. Parvenu à ce point de son discours, il s'étendit sur le premier amant, l'incontesté, et formula à ce sujet quelques idées intéressantes. Karamazov, férocement jaloux de tous, s'efface soudain et disparaît devant l'ancien et l'incontesté. Et c'est d'autant plus étrange qu'auparavant il n'avait presque pas fait attention au nouveau danger qui le menaçait dans la personne de ce rival inattendu. C'est qu'il se le représentait comme lointain, et un homme comme Karamazov ne vit jamais que dans le mode présent. Sans doute même le considérait-il comme une fiction. Mais ayant aussitôt compris, avec son cœur malade, que la dissimulation de cette femme et son récent mensonge provenaient peut-être du fait que ce nouveau rival, loin d'être un caprice et une fiction, représentait tout pour elle, tout son espoir dans la vie, ayant compris cela, il s'est résigné. « Eh bien, messieurs les jurés, je ne puis passer sous silence ce trait inopiné chez l'accusé, à qui sont subitement apparus la soif de la vérité, le besoin impérieux de respecter cette femme, de reconnaître les droits de son cœur, et cela au moment où, pour elle, il venait de teindre ses mains dans le sang de son père. Il est vrai que le sang versé criait déjà vengeance, car ayant perdu son âme, brisé sa vie terrestre, il devait malgré lui se demander à ce moment « Que suis-je? Que puis-je être maintenant pour elle, pour cette créature chérie plus que tout au monde, en comparaison de ce premier amant incontesté, de celui qui, repentant, revient à cette femme séduite jadis par lui, avec un nouvel amour, avec des propositions loyales et la promesse d'une vie régénérée et désormais heureuse. Mais lui, le malheureux, que peut-il lui offrir maintenant ? Karamazov comprit tout cela, et que son crime lui barrait la route, qu'il n'était qu'un criminel voué au châtiment, indigne de vivre. Cette idée l'accabla, l'anéantit. Aussitôt, il s'arrêta à un plan insensé qui, étant donné son caractère, devait lui paraître la seule issue à sa terrible situation. Le suicide. Il court dégager ses pistolets chez M. Percotine, et chemin faisant, sort de sa poche l'argent pour lequel il vient de souiller ses mains du sang de son père. Oh, maintenant plus que jamais, il a besoin d'argent. Karamazov va mourir, Karamazov se tue, on s'en souviendra. Ce n'est pas pour rien que nous sommes poètes, ce n'est pas pour rien que nous avons brûlé notre vie comme une chandelle par les deux bouts. La rejoindre, et là-bas, une fête à tout casser, une fête comme on n'en a jamais vue, pour qu'on se le rappelle et qu'on en parle longtemps. Au milieu des cris sauvages, des folles chansons et des danses des tziganes, nous lèverons notre verre pour féliciter de son nouveau bonheur la dame de nos pensées. Puis là, devant elle, à ses pieds, nous nous brûlerons la cervelle pour racheter nos fautes. Elle se souviendra de Mitya Karamazov. Elle verra comme il l'aimait. Elle plaindra Mitya. Nous sommes ici en pleine exaltation romanesque. Nous retrouvons la fougue sauvage et la sensualité des Karamazov. Mais il y a quelque chose d'autre, messieurs les jurés, qui crie dans l'âme, frappe l'esprit sans cesse et empoisonne le cœur jusqu'à la mort. Ce quelque chose, c'est la conscience, messieurs les jurés, c'est son jugement, c'est le remords. Mais le pistolet concilie tout, c'est l'unique issue. Quant à l'au-delà, j'ignore si Karamazov a pensé alors à ce qu'il y aurait là-bas, et s'il en est capable, comme Hamlet. Non, messieurs les jurés, ailleurs on a Hamlet, nous n'avons encore que des Karamazov. Ici, Hippolyte Kirillovitch fit un tableau détaillé des faits et gestes de Mitya, décrivit les scènes chez Percotine, dans la boutique, avec les voituriers. Il cita une foule de propos confirmés par des témoins, et le tableau s'imposait à la conviction des auditeurs. L'ensemble des faits était particulièrement frappant. La culpabilité de cet être désorienté, insoucieux de sa sécurité, sautait aux yeux. À quoi bon la prudence ? Poursuivit Hippolyte Kirillovitch. Deux ou trois fois, il a failli avouer et fait des allusions. Suivaient les dépositions des témoins. Il a même crié au voiturier sur la route « Sais-tu que tu mènes un assassin ?» Mais il ne pouvait tout dire. Il lui fallait d'abord arriver au village de Mokroyé et là, achever son poème. Or, qu'est-ce qui attendait le malheureux ? Le fait est qu'à Mokroyé, il s'aperçoit bientôt que son rival, incontesté, n'est pas irrésistible et que ses félicitations arrivent mal à propos. Mais vous connaissez déjà les faits, messieurs les jurés. Le triomphe de Karamazov sur son rival fut complet. Alors commence pour lui une crise terrible, la plus terrible de toutes celles qu'il a traversées. On peut croire, messieurs les jurés, que la nature outragée exerce un châtiment plus rigoureux que celui de la justice humaine. En outre, les peines que celle-ci inflige apportent un adoucissement à l'expiation de la nature. Elles sont même parfois nécessaires à l'âme du criminel pour la sauver du désespoir. Car je ne puis me figurer l'horreur et la souffrance de Karamazov en apprenant qu'elle l'aimait, qu'elle repoussait pour lui l'ancien amant, le conviait, lui, Mitya, à une vie régénérée, lui promettait le bonheur, et cela quand tout était fini pour lui, quand rien n'était plus possible. À propos, voici en passant une remarque fort importante pour expliquer la véritable situation de l'accusé à ce moment. Cette femme, objet de son amour, est demeurée pour lui jusqu'au bout, jusqu'à l'arrestation, une créature inaccessible, bien que passionnément désirée. Mais pourquoi ne s'est-il pas suicidé alors ? Pourquoi a-t-il renoncé à ce dessein et oublié jusqu'à son pistolet ? Cette soif passionnée d'amour et l'espoir de l'étancher aussitôt l'ont retenu. Dans l'ivresse de la fête, il s'est comme rivé à sa bien-aimée, qui fait bombance avec lui, plus séduisante que jamais. Il ne la quitte pas, et plein d'admiration, s'efface devant elle. Cette ardeur a même pu étouffer pour un instant la crainte de l'arrestation et le remords. Oh, pour un instant seulement. Je me représente l'état d'âme du criminel comme assujetti à trois éléments qui le dominaient tout à fait. D'abord, l'ivresse, les fumées de l'alcool, le brouhaha de la danse et les chants, et elle, le teint coloré par les libations, chantant et dansant, qui lui souriait, ivre aussi. Ensuite, la pensée réconfortante que le dénouement fatal est encore éloigné, qu'on ne viendra l'arrêter que le lendemain matin. Quelques heures de répit, c'est beaucoup. On peut imaginer bien des choses durant ce temps. Je suppose qu'il aura éprouvé une sensation analogue à celle du criminel qu'on mène à la potence. Il faut encore parcourir une longue rue, au pas, devant des milliers de spectateurs. Puis on tourne dans une autre rue, au bout de laquelle seulement se trouve la place fatale. Au début du trajet, le condamné sur la charrette ignominieuse doit se figurer qu'il a encore longtemps à vivre. Mais les maisons se succèdent, la charrette avance. Peu importe, il y a encore loin jusqu'au tournant de la seconde rue. Il regarde, bravement, à droite et à gauche, ces milliers de curieux indifférents qui le dévisagent, et il lui semble toujours être un homme comme eux. Et voici qu'on tourne dans la seconde rue. Mais tant pis, il reste un bon bout de chemin. Tout en voyant défiler les maisons, le condamné se dit qu'il y en a encore beaucoup, et ainsi de suite jusqu'à la place de l'exécution. Voilà, j'imagine, ce qu'a éprouvé Karamazov. Ils n'ont pas encore découvert le crime, pense-t-il. On peut chercher quelque chose, j'aurai le temps de combiner un plan de défense, de me préparer à la résistance, mais pour le moment, vive la joie, elle est si ravissante. Il est troublé et inquiet. Pourtant, il réussit à prélever la moitié des 3 000 roubles pris sous l'oreiller de son père. Étant déjà venu à Mokroyé pour y faire la fête, il connaît cette vieille maison de bois avec ses recoins et ses galeries. Je suppose qu'une partie de l'argent y a été dissimulée alors, peu de temps avant l'arrestation, dans une fente ou fissure, sous une lame de parquet et dans un coin. Sous le toit. Pourquoi ? Dira-t-on. Une catastrophe est imminente. Sans doute, nous n'avons pas encore songé à l'affronter. Le temps fait défaut. Les tempes nous battent. Elles nous attirent comme un aimant. mais on a toujours besoin d'argent. Partout, on est quelqu'un avec de l'argent. Une telle prévoyance en un pareil moment vous semblera peut-être étrange. Mais lui-même affirme avoir, un mois auparavant, dans un moment aussi critique, mis de côté et cousu dans un sachet la moitié de 3 000 roubles. Et bien que ce soit assurément une invention, comme nous allons le prouver, cette idée est familière à Karamazov. Il l'a méditée. De plus, lorsqu'il affirmait ensuite au juge d'instruction avoir distrait 1 500 roubles dans un sachet, lequel n'a jamais existé, il l'a peut-être imaginé sur le champ, précisément parce que 2 heures auparavant, il avait distrait et caché la moitié de la somme, quelque part, à Maucroyer, à tout hasard, jusqu'au matin pour ne pas le garder sur lui, d'après une inspiration subite. Souvenez-vous, messieurs les jurés, que Karamazov peut contempler à la fois 2 abîmes. Nos recherches dans cette maison ont été vaines. Peut-être l'argent y est-il encore? Peut-être a-t-il disparu le lendemain et se trouve-t-il maintenant en possession de l'accusé? En tout cas, on l'a arrêté à côté de sa maîtresse, à genoux devant elle. Elle était couchée, il lui tendait les bras, oubliant tout le reste, au point qu'il n'entendit pas approcher ce qui venait l'arrêter. Il n'eut pas le temps de préparer une réponse et fut pris au dépourvu. Et maintenant, le voilà devant ses juges, devant ceux qui vont décider de son sort. Messieurs les jurés, il y a, dans l'exercice de nos fonctions, des moments où nous-mêmes, nous avons presque peur de l'humanité. C'est lorsqu'on contemple la terreur bestiale du criminel qui se voit perdu, mais veut lutter encore. C'est lorsque l'instinct de la conservation s'éveille en lui tout à coup, qu'il fixe sur vous un regard pénétrant, plein d'anxiété et de souffrance, qu'il scrute votre visage, vos pensées, se demande de quel côté viendra l'attaque, imagine en un instant dans son esprit troublé 1 000 plans, mais craint de parler, craint de se trahir. Ces moments humiliants pour l'âme humaine, ce calvaire, cette avidité bestiale de salut, sont affreux. Ils font frissonner parfois le juge lui-même et excitent sa compassion. Et nous avons assisté à ce spectacle. D'abord ahuri, il laissa échapper dans son effroi quelques mots des plus compromettants. « Le sang, j'ai mérité mon sort. » Mais aussitôt, il se retient. Il ne sait encore que dire, que répondre, et ne peut opposer qu'une vaine dénégation. « Je suis innocent de la mort de mon père. » Voilà le premier retranchement, derrière lequel on essaiera de construire d'autres travaux de défense. Sans attendre nos questions, il tâche d'expliquer ses premières exclamations compromettantes en disant qu'il s'estime coupable seulement de la mort du vieux domestique Grigori. « Je suis coupable de ce sang. Mais qui a tué mon père, messieurs? Qui a pu le tuer si ce n'est pas moi ? » Entendez-vous, il nous le demande, à nous qui sommes venus lui poser cette question. Comprenez-vous ce mot anticipé ? Si ce n'est pas moi ? Cette finasserie, cette naïveté, cette impatience bien digne d'un Karamazov. Ce n'est pas moi qui ai tué, n'en croyez rien. J'ai voulu tuer, messieurs, s'empresse-t-il d'avouer, mais je suis innocent, ce n'est pas moi. Il convient qu'il a voulu tuer. Voyez comme je suis sincère, aussi hâtez-vous de croire à mon innocence. Dans ces cas-là, le criminel se montre parfois d'une étourderie, d'une crédulité incroyable. Comme par hasard, l'instruction lui pose la question la plus naïve. Ne serait-ce pas Smerdiakov, l'assassin ? Il arriva ce que nous attendions. Il se fâcha d'avoir été devancé, pris à l'improviste, sans qu'on lui laisse le temps de choisir le moment le plus favorable pour mettre en avant Smerdiakov. Son naturel l'emporte aussitôt à l'extrême. Il nous affirme énergiquement que Smerdiakov est incapable d'assassiner. Mais ne le croyez pas, ce n'est qu'une ruse. Il ne renonce nullement à charger Smerdiakov. Au contraire, il le mettra encore en cause, puisqu'il n'a personne d'autre. Mais plus tard, car pour l'instant, l'affaire est gâtée. Ce ne sera peut-être que demain ou même dans plusieurs jours. Vous voyez, j'étais le premier à nier que ce fût Smerdiakov, vous vous en souvenez ? Mais maintenant, j'en suis convaincu, ce ne peut être que lui. Pour l'instant, il nous oppose des dénégations véhémentes. L'impatience et la colère lui suggèrent l'explication la plus invraisemblable. Il a regardé son père par la fenêtre et s'est éloigné respectueusement. Il ignorait encore la portée de la déposition de Grigori. Nous procédons à l'examen détaillé de ses vêtements. Cette opération l'exaspère, mais il reprend courage. On n'a retrouvé que 1500 roubles sur 3000. C'est alors, dans ces minutes d'irritation contenue, que l'idée du sachet lui vient pour la première fois à l'esprit. Assurément, lui-même sent toute l'invraisemblance de ce conte et se donne du mal pour le rendre plus plausible, pour inventer un roman conforme à la vérité. En pareil cas, l'instruction ne doit pas donner au criminel le temps de se reconnaître, mais procéder par attaques brusquées, afin qu'il révèle ses pensées intimes dans leur ingénuité et leurs contradictions. On ne peut obliger un criminel à parler qu'en lui communiquant à l'improviste, comme par hasard, un fait nouveau, une circonstance d'une extrême importance, demeurée jusqu'alors pour lui imprévue et inaperçue. Nous tenions tout près un fait semblable. C'est le témoignage du domestique Grigori au sujet de la porte ouverte par où est sorti l'accusé. Il l'avait tout à fait oublié et ne supposait pas que Grigori pût la remarquer. L'effet fut colossal. Karamazov se dressa en criant « C'est Smerdiakov qui a tué! C'est lui !» Livrant ainsi sa pensée intime sous la forme la plus invraisemblable, car Smerdiakov ne pouvait assassiner qu'après que Karamazov avait terrassé Grigori et s'était enfui. En apprenant que Grigori avait vu la porte ouverte avant de tomber et entendit, lorsqu'il se leva, Smerdiakov geindre derrière la séparation, il demeura atterré. Mon collaborateur, l'honorable et spirituel Nicolas Parthenovitch, me raconta ensuite qu'à ce moment il s'était senti ému jusqu'aux larmes. Alors, pour se tirer d'affaire, l'accusé se hâte de nous conter l'histoire de ce fameux sachet. Messieurs les jurés, je vous ai déjà expliqué pourquoi je tiens cette histoire pour une absurdité. Bien plus, pour l'invention la plus extravagante qu'on puisse imaginer dans le cas qui nous occupe. Même en pariant à qui ferait le conte le plus invraisemblable, on n'aurait rien trouvé d'aussi stupide. Ici, on peut confondre le narrateur triomphant avec les détails. Ces détails dont la réalité est toujours si riche et que ces infortunés conteurs involontaires dédaignent toujours, parce qu'ils les croient inutiles et insignifiants. Il s'agit bien de cela. Leur esprit médite un plan grandiose et on ose leur objecter des bagatelles. Or, c'est là le défaut de la cuirasse. On demande à l'accusé « Où avez-vous pris l'étoffe pour votre sachet? Qui vous l'a cousu ?»«
Je l'ai cousu moi-même. »
« Mais d'où vient la toile ?» L'accusé s'offense déjà. Il considère ceci comme un détail presque blessant pour lui. Et le croiriez-vous, il est de bonne foi. Ils sont tous pareils.
« Je l'ai taillé dans ma chemise. »
« C'est parfait. Ainsi, nous trouverons demain dans votre linge cette chemise avec un morceau déchiré. » « Vous pensez bien, messieurs les jurés, que si nous avions trouvé cette chemise... » Et comment ne pas la trouver dans sa malle ou sa commode, s'il a dit vrai? Cela constituerait déjà un fait tangible en faveur de l'exactitude de ses déclarations. Mais il ne s'en rend pas compte. Je ne me souviens pas, il se peut que je l'ai taillé dans un bonnet de ma logeuse.
Quel bonnet?
Je l'ai pris chez elle, il traînait, une vieillerie en calicot.
Et vous en êtes bien sûr?
Non, pas bien sûr.
Et de nouveau il se fâche.
Pourtant, comment ne pas se rappeler pareil détail? Il est précisément de ceux dont on se souvient, même aux moments les plus terribles, même lorsqu'on vous mène au supplice. Le condamné oubliera tout, mais un toit vert aperçu en route ou un chouka sur une croix lui reviendront à la mémoire. En cousant son amulette, il se cachait des gens de la maison. Il devrait se rappeler cette peur humiliante d'être surpris, l'aiguille à la main. Et comment, à la première alerte, il courut derrière la séparation? Il y en a une dans sa chambre.
Mais, messieurs les jurés, pourquoi vous communiquez tous ces détails?
S'exclama Hippolyte Kirillovitch. C'est parce que l'accusé maintient obstinément jusqu'à aujourd'hui cette version absurde. Durant ces 2 mois, depuis cette nuit fatale,
il n'a rien expliqué ni ajouté un fait probant à ses précédentes déclarations fantastiques. « Ce sont là des bagatelles, dit-il, et vous devez croire à ma parole d'honneur. » « Oh, nous serions heureux de croire, nous le désirons ardemment, fût-ce même sur l'honneur. Sommes-nous des chacals, altérer le sang humain ? Indiquez-nous un seul fait en faveur de l'accusé, et nous nous réjouirons. Mais un fait tangible, réel, et non les déductions de son frère, fondées sur l'expression de son visage, ou l'hypothèse qu'en se frappant la poitrine dans l'obscurité, il devait nécessairement désigner le sachet. Nous nous réjouirons de ce fait nouveau. Nous serons les premiers à abandonner l'accusation. Maintenant, la justice réclame, et nous accusons, sans rien retrancher à nos conclusions. » Puis Hippolyte Kirillovitch en vint à la péroraison. Il avait la fièvre. D'une voix vibrante, il évoqua le sang versé, le père tué par son fils, dans la vile intention de le voler. Il insista sur la concordance tragique et flagrante des faits. « Et quoi que puisse vous dire le défenseur célèbre de l'accusé, malgré l'éloquence pathétique qui fera appel à votre sensibilité, n'oubliez pas que vous êtes dans le sanctuaire de la justice. Souvenez-vous que vous êtes les défenseurs du droit, le rempart de notre sainte Russie, des principes, de la famille, de tout ce qui lui est sacré. Oui, vous représentez la Russie en ce moment. Et ce n'est pas seulement dans cette enceinte que retentira votre verdict. Toute la Russie vous écoute, vous, ses soutiens et ses juges, et sera réconfortée ou consternée par la sentence que vous allez rendre. Ne trompez pas son attente. Notre fatale troïka court à toute bride, peut-être à l'abîme. Depuis longtemps, beaucoup de Russes lèvent les bras, voudraient arrêter cette course insensée. Et si les autres peuples s'écartent encore de la troïka emportée, ce n'est peut-être pas par respect, comme s'imaginait le poète, c'est peut-être par horreur, par dégoût, notez-le bien. Encore est-ce heureux qu'ils s'écartent. Ils pourraient bien dresser un mur solide devant ce fantôme et mettre eux-mêmes un frein au déchaînement de notre licence pour se préserver, eux et la civilisation. Ces voix d'alarme commencent à retentir en Europe. Nous les avons déjà entendues. Gardez-vous de les tenter, d'alimenter leur haine croissante par un verdict qui absoudrait le parricide. Bref, Hippolyte Kirillovitch, qui s'était emballé, termina d'une façon pathétique et produisit un grand effet. Il se hâta de sortir et faillit s'évanouir dans la pièce voisine. Le public n'applaudit pas, mais les gens sérieux étaient satisfaits. Les dames le furent moins. Pourtant son éloquence leur plut aussi, d'autant plus qu'elles n'en redoutaient pas les conséquences et comptaient beaucoup sur Fetioukovitch. « Il va enfin prendre la parole et pour sûr triompher !» Mitya attirait les regards. Durant le réquisitoire, il était resté silencieux, les dents serrées, les yeux baissés. De temps à autre, il relevait la tête et prêtait l'oreille, surtout lorsqu'il fut question de Grushenka. Quand le procureur cita l'opinion de Rakitine sur elle, Mitya eut un sourire dédaigneux et proféra assez distinctement « Bernard !» Lorsqu'Hippolyte Kirillovitch raconta comment il l'avait harcelé lors de l'interrogatoire à Mokroïe, Mitya leva la tête, écouta avec une intense curiosité. À un moment donné, il parut vouloir se lever, crier quelque chose, mais se contint et se contenta de hausser dédaigneusement les épaules. Les exploits du procureur à Mokroïe défrayèrent par la suite les conversations, et l'on se moqua d'Hippolyte Kirillovitch. Il n'a pu s'empêcher de se mettre en valeur. L'audience fut suspendue pour un quart d'heure, 20 minutes. J'ai noté certains propos tenus par le public. « Un discours sérieux !» déclara en fronçant les sourcils un monsieur dans un groupe. « Un peu trop de psychologie !» dit une autre voix. « Mais tout cela est rigoureusement vrai. Oui, il est passé maître. Il a dressé le bilan. Nous aussi, nous avons une autre compte !» ajouta une troisième voix. « Au début, vous vous rappelez quand il a dit que nous ressemblions tous à Fiodor Pavlovitch. Et à la fin aussi. Mais il a menti.
Il s'est un peu emballé.
C'est injuste.
Mais non, c'est adroit. Il a attendu longtemps son heure. Il a parlé, enfin.
Que va dire le défenseur?
Dans un autre groupe.
Il a eu tort de s'attaquer à l'avocat, faisant appel à la sensibilité, vous souvenez-vous?
Oui, il a fait une gaffe.
Il est allé trop loin.
Un nerveux, n'est-ce pas?
Nous sommes là, à rire. Mais comment se sent l'accusé?
Oui, comment se sent Mitya?
Que va dire le défenseur?
Dans un troisième groupe. Qui est cette dame obèse avec une lorgnette assise tout au bout?
C'est la femme divorcée d'un général, je la connais.
C'est pour ça qu'elle a une lorgnette.
Un vieux trumeau.
Mais non, elle a du chien.
Deux places plus loin, il y a une petite blonde, celle-ci est mieux.
On a adroitement procédé à Mocroyer.
Assurément, il est revenu là-dessus, comme s'il n'en avait pas assez parlé en société.
Il n'a pas pu se retenir, l'amour-propre, n'est-ce pas?
Un méconnu,
et susceptible, beaucoup de rhétorique, de grandes phrases.
Oui, et remarquez qu'il veut faire peur. Vous vous rappelez la Troïka?
Ailleurs, on a Hamlet, et nous n'avons encore que des Karamazov.
Ce n'est pas mal.
C'est une avance aux libéraux, il a peur.
Il a peur aussi de l'avocat.
Oui, que va dire Monsieur Fetioukovitch?
Quoi qu'on dise, il n'aura pas raison de nos moujiks.
Vous croyez?
Dans un quatrième groupe.
La tirade sur la Troïka était bien envoyée.
Et il a eu raison de dire que les peuples n'attendraient pas.
Comment ça? La semaine dernière, un membre du Parlement anglais a interpellé le ministère au sujet des nihilistes.
Ne serait-il pas temps, a-t-il demandé, de nous occuper de cette nation barbare pour nous instruire?
C'est à lui qu'Hippolyte a fait allusion, je le sais. Il en a parlé la semaine dernière.
Ils n'ont pas le bras assez long.
Pourquoi pas assez long?
Nous n'avons qu'à fermer Kronstadt et à ne pas leur donner de blé. Où le prendront-ils?
Il y en a maintenant en Amérique.
Jamais de la vie.
Mais la sonnette se fit entendre. Chacun se précipita à sa place. Fetioukovitch prit la parole.